Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est parti.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Plein de Sens.
Je suis Anne-Sophie Supio.
Je m'appelle Grégory Vacher.
Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi.
Comment tu sais tout ça, toi?
Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous.
Quelle bonne idée.
Oui.
Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui?
Couple, sexualité, amour et désir, avec Florentine Dolnois-Wang.
Merci Francine.
Alors, on y va.
Bonjour à tous, nous nous installons pour un nouveau podcast.
Bonjour,
bienvenue.
Je m'assois sur le tabouret, voilà, on va être bien là, c'est sympathique. Là que l'immatisation est allumée.
Non, c'est juste qu'il fait très froid chez moi.
Ah d'accord, c'est pour ça.
Oui.
Cela dit, pour des gens qui défendent un petit peu les valeurs environnementales, avoir la clim chez toi, ce serait un peu un pied de nez, non?
Non, mais on serait pas des ozos, nous.
Excellent. Alors aujourd'hui, on est content parce qu'on va parler d'un sujet qui est assez universel, à savoir l'amour.
Oui, le couple
et également la sexualité, avec une spécialiste du genre. Alors, je vais essayer de dire son nom correctement parce qu'à chaque fois, soit j'articule mal. Florence Dolnois-Wang.
Florentine, déjà.
Ah ouais, Florentine.
Dolnois-Wang.
Dolnois-Wang.
Ouais. Voilà. C'est marrant de se tromper vraiment sur le plus facile.
C'est vrai, j'avoue.
Bon, Florentine, elle est thérapeute de couple. Elle a aussi un site internet. Elle a créé des jeux. Elle a sorti des livres. On va en parler avec elle tout à l'heure. En gros, nous allons parler du couple. Bon, bah, forcément, au niveau du couple, toi, t'es mariée.
Ouais, moi j'ai un couple maintenant qui dure depuis un petit moment, je suis bien avec ma femme, il y a des moments de haut, de bas, mais ce qui est sûr c'est qu'on a déjà travaillé sur nous-mêmes et j'ai trouvé ça super intéressant de travailler sur son couple, parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où tu travailles sur ton couple, c'est qu'il y a un problème et que tu devrais pas. Moi je suis pas trop de cet avis, et puis de toute façon on va voir ce que nous dit Florentine, mais je trouve ça intéressant quoi de d'évoluer. En fait moi j'adore... pas toujours, hein, avec ma femme, on se prend la tête comme beaucoup de couples, mais j'adore me dire qu'aujourd'hui, on est un couple, tu vois, qui existe, qui a des passions, des trucs qu'on aime, mais qui n'est pas le même couple qu'il y a 10 ans, tu vois.
Bah oui,
on a beaucoup évolué.
Mais ce qui est normal, en fait, c'est comme les goûts qui évoluent, en fait. Mais un jour, t'aimes les artichauts, puis le lendemain, tu l'aimes plus.
Mais sauf qu'à deux, tu vois, tu peux avoir peur de toi plus aimer les artichauts, mais que la personne les aime
c'est
toujours,
vrai.
Et du coup, que ça crée des conflits. Alors que quand tu arrives à évoluer à peu près en même temps, c'est plutôt sympa. Et là, pour l'instant, ma femme, je l'aime. Après, ça se trouve, ça va s'arrêter. Et en même temps que je le dis, ça y est, ça vient de s'arrêter. Ah, tu vois ? Je l'aime plus, ça y est. Ben, c'est fou.
Bon, bah écoute,
mais je t'aime.
En plus, ça tombe bien, puisque moi, c'est vrai que mon couple, bah, je suis seule et célibataire.
Mais c'est plutôt pratique. Genre, quand tu vas au cinéma, tu te disputes pas pour dire « Ah, tu veux aller voir ça ? Ah non, mais moi, je veux aller voir ça. »
C'est vrai. Et puis, dans d'autres cas aussi.
Et puis, tu payes moins cher.
Oui.
Tu payes qu'une place.
Bah oui, c'est sûr.
T'imagines tous ces avantages.
Bon, accueillons Florentine tout de suite.
Oui, parce que là, j'ai l'impression que t'es en train de pleurer. Pourquoi?
Non. C'est vraiment très intérieur. Bonjour Florentine.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour Greg.
Bonjour.
Alors, Florentine est avec nous. Aujourd'hui, nous allons donc parler de couple. C'est un sujet où... Enfin, on va tous se reconnaître.
C'est un sujet, enfin, sauf les gens qui n'ont jamais été en couple et qui ne veulent peut-être pas être en couple.
C'est possible.
Que je peux comprendre. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est vaste, on va dire. Il y a plein de questions à chaque fois qu'on traite du couple. D'ailleurs, Florentine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton métier, la vraie dénomination ? Parce que si on le fait nous-mêmes, nous connaissons, on va le faire mal.
Écoute, moi-même, je ne sais plus très bien comment m'appeler. Je pense que ce qui se rapproche le plus, ce serait thérapeute de couple. Et en même temps, moi je travaille sur la thérapie du lien, couple ou pas couple, parce que j'accompagne aussi beaucoup des célibataires qui ont envie de comprendre l'espace en eux pour la relation.
Ah.
Et en fait, moi, j'aime beaucoup parler d'intelligence amoureuse.
D'accord. C'est vrai que j'ai
Ouais,
jamais
je
entendu
pense.
parler de ce terme, mais...
Bah, déjà, en plus, Florentine, t'as sorti un livre qui s'appelle L'intelligence amoureuse.
Oui, j'ai sorti un livre qui va être réédité d'ailleurs parce que Larousse m'a demandé d'en faire une édition revue et augmentée. Donc, c'est vraiment en train de prendre, c'est vraiment en train de parler cette histoire-là que l'amour, évidemment, ça coule de nous, ça coule de source, l'amour, le sentiment, l'amour. Mais aimer et relationner, c'est deux choses différentes.
D'accord.
En tout cas, voilà, moi je suis une quinca. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 25 ans. Donc ça
D'accord.
fait, si on calcule bien, plus de 25 ans qu'on est ensemble. Et si on n'avait pas musclé un peu un muscle relationnel, on serait plus ensemble ou on serait mal ensemble. Donc, en tant que thérapeute, j'ai vite compris que même avec toutes les études que j'avais faites, etc., ben, la relation, c'était hyper compliqué. Et donc, tu vois, j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse autrement à la relation. Ça m'a passionnée. Mais c'est pour mon propre couple que je suis allée creuser d'abord.
D'accord.
Et puis, j'ai mis au monde, chemin faisant, l'intelligence amoureuse, tu vois.
Ok, bah justement, avant qu'on parle peut-être du couple, je me disais, ça peut être intéressant d'aborder rapidement le célibat dont tu parlais, parce que c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cette question, mais tout de suite, quand je t'ai entendu, ça m'a fait penser à ces amis. Que je peux avoir qui sont éternels célibataires, qui n'arrivent pas à trouver la bonne relation, qui sont aujourd'hui des gens de mon âge, donc qui ont pas loin de, enfin qui ont entre 35 et 40 ans, on va dire, qui perdent un peu espoir, est-ce que et qui ont l'impression qu'il y a un peu une malédiction sur eux. Il y a un côté un peu bon, moi j'y arriverai jamais, je sais, c'est comme ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que c'est des choses qu'on peut expliquer aujourd'hui, le pourquoi des gens sont dans cette catégorie, et est-ce qu'on peut trouver une issue pour ceux en tout cas qui souhaitent être en couple et qui n'y arrivent pas, quoi?
Évidemment, le pourquoi, c'est que on a des représentations sur le couple et l'amour qui sont complètement faussées. Et donc, on s'engage dans des relations avec un certain point de vue de qu'est-ce que c'est un bon couple, qu'est-ce que c'est un bon partenaire, qu'est-ce que déjà ça nous envoie dans le mur. Et aussi, on arrive dans la relation avec nos creux et nos bosses. Parce qu'on a fait tout un voyage depuis qu'on est né sur Terre, tu vois. Et ce voyage nous a sculptés. Et ça, on l'emmène dans le lien. Et l'autre en face emmène ses propres sculptures aussi dans le lien. Et ça fait un joyeux bazar. Et quand on n'a pas des clés, c'est comme ça passe ou ça casse, tu vois. Et quand ça casse, c'est hyper douloureux. Et ça peut nous confirmer qu'on n'est pas aimable ou qu'on ne trouve jamais le bon partenaire ou que, ou que, ou que, ou que. Et c'est ce contre quoi je me bats, moi, vraiment, aujourd'hui, hein. Je pense qu'on est des merveilles, tous et chacun. Tu vois, qu'on est arrivé sur Terre avec des capacités extraordinaires, un potentiel fou. Quand on regarde les bébés, moi, je suis fascinée de regarder les bébés parce que c'est un enseignement sur pattes, de voir ce qu'on était à la base, tout ce potentiel de dire oui, de s'abandonner, de dire non, de se braquer. Tu vois, enfin, je dis tu vois à chaque fois, mais en fait, c'est vous voyez, hein,
Oui.
mais le regarder un bébé, c'est vraiment nous redire tout ce qu'on est et qu'on a oublié qu'on était. Le bébé, il veut plus de sa tétine, il la crache, point barre. Il se demande pas si ça va nous faire plaisir, ceci, ceci, cela. Il s'est posé ses limites. On savait tout ça. Pour apprendre à marcher, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on était tombé chacun entre 3 et 5 000 fois.
Ah
Imaginez
oui.
la ténacité d'un bébé. Imaginez comme on a été incroyablement tenace.
Ouais, alors que adulte, tu essayes une fois la trottinette électrique, tu te prends un arbre, tu te dis bon, bah, c'est pas pour moi.
Il dit, c'est pas pour moi. Et ça, c'est parce que dans ce voyage de l'enfance, on a un papa, une maman, on a une fratrie, on a des instits, des parrains, des marraines, on a notre petit monde qui va nous envoyer des messages et on va le croire. T'es pas fait pour ça. Une fille, ça doit être mignon, ça doit pas agresser. Et c'est comme ça que nous, les filles, on sait plus mettre notre limite. Que même sur le consentement, on n'a plus de repères. Tu dois faire des baisers à tout le monde pour dire bonjour. Tu dois. Tout ce qu'on nous apprend peut nous décaler de qui on est. Il y a ça déjà, et puis après, il y a le monde des traumas, des deuils, de l'abus, de la maltraitance, évidemment, des déménagements, des copains qui partent, dans une vie d'enfant, perdre son doudou, c'est un trauma, voyez? Et donc, on arrive dans la vie adulte, dans la vie relationnelle, on est des merveilles, mais dans notre voyage de l'enfance, on a mis beaucoup d'aspects de nous dans un congélateur, soit par choc, par trauma, parce que le trauma, il congèle des aspects de nous, soit par message. Parce que enfant, je vais toujours préférer m'asseoir sur des parties de moi, les mettre au congélateur, plutôt que de risquer de perdre le lien à mon entourage. Et donc, j'arrive dans la relation avec ce bagage. Je suis une merveille et il y a plein d'aspects de moi qui sont congelés. Et ce qui est extraordinaire dans le recrutement amoureux, et c'est là que je dis ça passe ou ça casse, c'est que je vais recruter quelqu'un à mettre dans ma vie pour retrouver ses parties perdues.
D'accord.
Je ne le sais pas. Ça, c'est le but non conscient de la relation. C'est que la vie me veut vivant, la vie me veut entier, et moi-même, je veux retrouver qui j'étais. Donc, je vais être absolument bouleversée par quelqu'un qui porte ce que moi j'ai perdu.
D'accord. Donc, par exemple, si j'ai manqué de contact physique alors que j'étais un enfant qui avait besoin de câlins, qui avait besoin de sentir des mains, des bras rassurants, je peux par exemple trouver enfin, une qualité pour trouver la partenaire ou le partenaire idéal, ce serait une personne de très tactile, de très, très physique, par exemple.
C'est presque exactement ça.
Oui.
Ma façon de le formuler, elle est un tout petit peu différente. Elle est que, tu vois, deux familles dans lesquelles le bébé va pas recevoir d'affection. Pas de câlin, pas de contact, alors qu'on en a tellement besoin pour se développer, pour se déployer, pour sentir qui on est, etc. Il y en a un sur ces deux bébés qui va décider, ce manque-là de contact, c'est tellement dangereux. Le contact, c'est dangereux. Je congèle le contact. Je ne veux plus de contact.
D'accord.
Tu vois? Et dans la même carence de lien, un autre bébé va décider, le contact, c'est ce qui m'aura le plus manqué. Je veux maintenant du contact. Je veux des camions de contact.
D'accord.
Et c'est ceux-là qui vont se rencontrer. Parce que la mission du couple, pour eux, il va y avoir une danse. Au début de la relation, ils vont se rencontrer, il va y avoir toutes les hormones géniales du coup de foudre, etc. Il va y avoir du contact, de l'intimité, du toucher, des câlins, etc. Et puis, à un moment, ils vont se repolariser dans leur décision d'enfant, où l'un va dire contact trop dangereux et l'autre va dire si, si, plus de contact, plus de contact. Et tu vois, une chose que tu peux dire à tous tes amis célibataires comme ça qui pensent que c'est plus pour eux. Si on n'a pas d'intelligence amoureuse, monsieur nos contacts va penser que madame contact est saoulante. Tu m'étouffes, tu me débordes, et donc je vais te rejeter, et donc je vais te faire revivre ce que tu as vécu enfant, et moi je vais perpétuer ce que j'ai vécu enfant. S'ils mettent pas de la conscience tous les deux pour aller regarder qu'est-ce que c'est que cette danse, qu'est-ce qui se traficote entre nous, pour dire ah waouh, tous les deux on a une drôle d'histoire avec le toucher. Et moi, je porte la partie qui n'en veut plus, et toi, tu portes la partie qui en veut trop. Le cadeau, il est au milieu. Et on va le regarder en collaboration aimante, et on va redévelopper ça ensemble.
Ouais,
Et ça, c'est bon pour tous nos aspects.
ça
Tu
dit.
vois, contact, un qui est bordélique, l'autre qui est hyper structuré, tout ce qu'on appelle nos incompatibilités.
Oui.
Ouais, mais du coup, ça veut dire, Florentine, aussi que ça nécessite justement un questionnement des deux personnes et ça nécessite justement d'essayer de mettre le doigt. Parce qu'en fait, c'est tellement plus facile aussi quand tu es en couple et qu'il y a une forme d'incompatibilité, en tout cas ce qu'on pourrait penser être une incompatibilité, de dire ben, mettons fin à la relation.
Ouais, c'est
C'est peut-être plus
terminé.
simple. Finalement, comment du coup on arrive à passer ce cap-là, de se dire bon, allez, on va essayer de se battre et on va essayer de mettre le doigt sur quelque chose. Tu
Est-ce
vois,
qu'il faut
c'est pas
pas
facile, quoi.
mettre dans la tête de chacun quelque part que le couple, c'est un travail, quoi, un couple qui dure et que l'illusion du couple, genre de trouver la bonne personne avec qui tout est magique pendant 25 ans, sans faire aucun effort, ça n'existe pas. On peut se l'enlever de la tête, quoi.
On peut se l'enlever de la tête. C'est pour ça que je dis que toutes les représentations nous ont envoyé dans le mur. Tu vois, tous les films romantiques qui s'arrêtent au moment où on est dans la phase où tout est beau, tout est bon, tout est dynamique, tout est désir, tout est entrain, etc. Et après, on va passer dans la phase de la mission du couple, de quel plan la vie a pour moi. pour que je redevienne vivant. Et effectivement, on peut choisir de se séparer quand ça commence à venir nous gratter émotionnellement. Se séparer, ça permet d'éviter de rentrer dans des émotions difficiles. Mais quand on se protège à vie de rentrer, de plonger dans des émotions difficiles, on se protège de la vie. Et la relation, elle vient nous chercher là. Donc effectivement, dans l'intelligence amoureuse, il y a tout un travail émotionnel.
Mais comme disait Anso, il faut être deux pour faire ce travail, quoi. Si un seul en a conscience, ça ne pourra pas mener.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce
D'accord.
que moi, je le vis dans mes accompagnements. Bon, j'ai un shoot-out, hein, j'ai un message pour les hommes, bougez-vous.
D'accord.
Bougez-vous, elles vous attendent. Les femmes, elles ont souvent cette polarité d'initiatrice de la relation. C'est celles qui vous disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu ne voudrais pas lire ce bouquin? Est-ce que tu ne voudrais pas faire ce programme? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on aille voir quelqu'un, etc. Souvent, les hommes, vous êtes sur les freins. Je comprends ça parce que dans vos messages de l'enfance, on vous a beaucoup demandé de gérer, d'assurer, tout seul, d'être fort, etc. Et ça vient challenger complètement ça. Mais de grâce, ouvrez-vous à ces messages de votre partenaire. Je suis débordée de témoignages de femmes qui m'appellent pour me dire comment est-ce que je peux le convaincre de venir et d'hommes qui me disent j'ai été un vrai con, elle est partie. Comment je peux faire pour la récupérer? En général, quand elle est partie, elle est partie. C'est-à-dire, il y a des années, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas pour relationner au long cours dans la joie et la vitalité et l'énergie. Et oui, moi, je suis bouleversée à chaque fois que j'ai des témoignages d'hommes qui m'écrivent. Hein, j'ai des mails qui me disent comment je peux faire? Elle m'a demandé, elle m'a. Voilà, c'est terminé. J'ai été un vrai con.
Mais qu'est-ce que tu réponds du coup dans ces cas-là? Parce que enfin, je te rejoins sur un point, c'est que, enfin, en tout cas, ça s'applique à mes propres expériences. C'est vrai que moi, souvent, une fois que je suis partie, c'est vraiment fini, quoi. Il n'y a pas de.
Il n'y a
Ça,
pas de
c'est.
retour possible.
Non, il n'y a pas de retour
Sauf
possible.
si on t'offre une bouteille de Ricard, c'est vrai que...
Évidemment, évidemment. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces hommes? Parce que tu ne peux pas rentrer dans une généralité. Il y a potentiellement des femmes qui peuvent revenir. Mais qu'est-ce que tu leur
Ben,
réponds?
en fait, du coup, je les accompagne à faire ce job parce que on peut, tu vois, moi, je suis vraiment aussi dans ce message de un peut faire bouger le deux. Notamment dans les premiers paliers, parce que quand on arrive à un moment de conflit, d'incommunicabilité, un point dur dans le couple, hein, soit que les bateaux s'éloignent, parce qu'il y a deux façons d'être en crise en couple. Hein. Il y a les bateaux s'éloignent ou ça fight tout le temps.
D'accord, les bateaux s'éloignent. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, même si ça me paraît très clair, hein, c'est qu'on est chacun aspiré par notre propre vie seule, c'est-à-dire le boulot, on est occupé par, je sais pas, des soirées entre amis, des machins, et donc le couple ne se retrouve plus, finalement on fait de la coloc et on s'aperçoit
C'est
quoi.
ça. Il y a soit c'est en mode on s'est perdu,
Ouais.
tu vois, soit carrément il y a des tierces personnes qui rentrent dans l'équation ou des activités qui prennent une place aussi importante émotionnellement qu'une tierce personne. Hein. Ou alors il y a le conflit chaud où on est tout le temps en train de s'engueuler, tout le temps en train de se critiquer, de se braquer, c'est vraiment la lutte chaude. Et quand on arrive à ce point, vraiment, quand l'un des deux seulement commence à faire le job, commence à réaliser ce qui l'emmène dans la dynamique et que du coup ce qui l'emmène dans la dynamique change, la dynamique change.
D'accord. Parce qu'on est d'accord, c'est ça que je voulais te dire, que sans être dans des situations vraiment problématiques et sans être dans un couple qui est au bord de l'énorme crise, ce sont des phases régulières et normales, non, d'avoir justement les bateaux qui s'éloignent et des périodes de conflit.
Complètement, mais complètement normal. Et c'est pas assez intégré. On pense que l'amour, c'est l'état amoureux. Mais aimer et être amoureux, c'est complètement différent.
Oui,
C'est
d'ailleurs, tu
complètement
dis,
différent.
j'ai vu sur ton compte Instagram, tu le dis, allez voir d'ailleurs son compte Instagram, enfin, on vous mettra tous les liens parce que c'est vraiment des petites phrases, mais à chaque fois qui font vraiment réfléchir. Et tu dis souvent que aimer, c'est ce qui vient justement après l'état amoureux.
Ouais, c'est une citation moi qui m'avait vraiment emportée il y a quelques années d'Éric Emmanuel Schmitt, je sais plus dans quel livre, mais qui disait, on commence à aimer quand on cesse d'être amoureux. Et donc, dans aimer, il y a ce deuil à faire de l'état amoureux. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on intègre et d'être d'accord à un endroit que certains d'entre nous sont amoureux de l'amour. Et donc, dès qu'on n'est plus dans cette période d'état amoureux où on est flayé, hein, clairement, On est sous emprise de plein d'hormones qui modifient notre état intérieur. On est dans le manque, on est dans la surprise, on est dans la générosité. Enfin, c'est très, très dynamique. Il est délicieux, l'état amoureux.
Ouais.
Et comme c'est la représentation principale de ce que c'est l'amour, dans les romans, dans les films, etc., quand on quitte cet état-là, on se dit « Ah bah ça y est, c'est fini, je suis plus amoureux. » Mais c'est là que ça commence à devenir très, très intéressant.
Ouais, bah tu vois, en fait, je sais pas si ça parlera à ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression, Florentine, que pendant très longtemps, mes relations, justement, une fois qu'elles passaient cette phase un peu magique de tout est beau, tout est un conte de fées, il y a plein de papillons dans le ventre, il y a plein d'adrénaline, bah finalement, je comprenais, une fois que c'était fini, que cette relation n'était pas faite pour moi, et je finissais par quitter la personne au bout d'un moment, ou en tout cas, je finissais par créer la situation pour que la personne me quitte, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup manqué de courage. Hein. Et en fait, ma femme, ça a été la première personne pour qui j'ai pas eu de coup de foudre au début. C'était juste une relation comme ça. Et au bout d'un an, parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai pas eu le coup de foudre au début, donc forcément, en plus, je repensais à mon ex et tout, forcément, bon, je l'ai quitté. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pendant notre rupture qui a duré plusieurs mois, que malgré mes efforts pour essayer de me mettre avec d'autres filles ou de juste profiter de la vie, elle revenait souvent dans ma tête, quoi. Et donc, ça m'a obligé à faire un vrai travail sur moi. Parce que je me suis dit, OK, si tu reviens vers elle, tu ne peux pas la faire souffrir. Donc, il faut que tu sois certain que c'est pour les bonnes raisons et qu'elle ne va pas juste te flatter dans ton ego parce que tu savais qu'elle était amoureuse de toi. Et donc, je me suis posé toutes ces questions. Je me suis lancé et là, je me suis dit, OK, si tu reviens vers elle, c'est pour la rendre, enfin, pour la rendre heureuse. Ça peut faire un peu macho de parler comme ça, genre c'est mon rôle dans les femmes heureuses. En tout cas, de faire de donner la meilleure version de toi-même. Et faire en sorte que ça se passe bien. Et donc aujourd'hui, bon, on a deux enfants. Ça fait, je crois, 10, 12 ans, 13 ans.
Le je crois, il est en trop.
Non, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Et en fait, j'ai accepté de lâcher un truc, je ne sais pas quoi, de me jeter à fond dans la relation et de vivre avec ces phases qui fait que des fois, c'était tout beau, tout rose comme dans les contes de fées. Et des fois, on était justement en distance, où on était en train de se fâcher. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et je me suis rendu compte, enfin là, la vie m'a montré que regarde, il y a des moments où c'est compliqué, où tu crois que tout est perdu. Et pourtant, une semaine, un mois après, tu es persuadé de toutes tes cellules que tu es avec la bonne personne. Et en fait, quand on enchaîne ces différentes petites tempêtes et qu'à chaque fois, on revient sur quelque chose de beau et que l'état amoureux revient, on a foi en quelque chose dont on n'avait pas conscience avant. Et c'est là qu'on comprend comment ça fonctionne. Alors, je ne dis pas que maintenant, j'ai tout compris et qu'avec ma femme, ça durera ad vitam aeternam. Bien sûr que non, je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, je souhaite à tout le monde qui n'a pas encore connu ces phases de les connaître parce que c'est là qu'on touche du doigt, j'ai l'impression, le véritable amour.
C'est ça. Et tu vois, dans ce que tu décris, il y a deux choses que j'ai vraiment envie de souligner. Déjà, bravo, trois choses. Bravo, un break ne sert à rien si on ne met pas de la transformation avant de se retrouver. Soit la transformation à deux. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sont en break, mais qui viennent dans l'intelligence amoureuse pour apprendre pendant ce break. Ou soit chacun de son côté, bref. En tout cas, se remettre ensemble sans avoir rien bougé d'autre, on va se renvoyer dans le même mur. Ensuite, dans ce que tu dis, tomber amoureux, c'est du chaos neuro-émotionnel. Et c'est nos représentations. C'est pour ça que tant de femmes sont attirées par les bad boys et tant d'hommes sont attirés par des chieuses. Vraiment, c'est qu'au démarrage, cette tension-là, y a beaucoup de love coach qui font leur beurre là-dessus, hein, fuis-moi, je te suis, etc.
Ouais.
Ça vient déclencher des ressorts intérieurs, mais qui finalement sont assez toxiques. De manque, d'une attraction, d'une fascination, etc. Et en fait, on a le cerveau et le cœur retournés, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois, parfois, et même souvent. Et je préfère, j'ai un pronostic incroyable pour les gens pour qui c'est tranquille. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, on n'a pas eu de coup de foudre. » Génial, no problemo. Et ce que j'avais envie de souligner dans ce que tu dis aussi et qui est très beau, c'est que tu vois, t'es retombé amoureux, Mais la différence, c'est que tu es tombé amoureux d'une femme que tu connaissais. Parce que quand on y réfléchit, l'état amoureux du début, on ne se connaît pas. On est amoureux d'un idéal, d'une image, d'un échantillon, tu vois, surtout qu'il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de. On n'est pas encore nous-mêmes, on n'a pas encore le pyjama en pilou-pilou.
Oui,
Anesso
parce que je porte
porte
un pyjama parce qu'il fait froid chez moi. Oh, merci Florentine de le préciser. Oui.
Il te va très bien.
Merci beaucoup.
C'était tout à fait générique, je ne visais personne. Mais c'est juste pour dire que au début, on est amoureux d'un fantasme, d'un échantillon, d'un avant-goût. Puis, on tombe un peu de l'armoire, puis on fait connaissance et on retombe amoureux. Mais on retombe amoureux de quelqu'un qu'on connaît, qu'on a vu dans le meilleur, qu'on a vu dans le pire. On n'est plus dans le soi de présentation. On sait à quel point on peut s'envoyer dans la douleur. On sait les vulnérabilités de l'autre. On sait les vérités de l'autre. On sait et on aime. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Est-ce que c'est pas là aussi la clé pour être dans une bonne relation? C'est-à-dire, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de s'autoriser à aimer, en tout cas à vouloir découvrir une personne sans s'imposer les contraintes de il faut que cette personne plaise à mes parents, il faut que cette
Oui.
personne ait le même niveau social que moi, il faut que cette personne fasse cette taille, parce qu'attention, si elle a trop de forme, mes potes ils vont dire attention, t'as vu, attention, ta copine elle est pas maigre, normalement faut être maigre, t'as pas vu les magazines?
Ce dont tu es en train de parler, c'est fondamental. C'est comment le cahier des charges nous échappe complètement pour la bonne personne. La bonne personne, c'est celle qui va nous aider à remettre en vie nos endroits congelés. La bonne personne, c'est celle qui va toute notre vie appuyer sur les boutons rouges en disant je te veux pleinement vivant. Je te vois, je sais qui tu es, je sais la merveille que tu es. Putain, décongèle-moi ça. C'est pas du tout celle qui va plaire à nos parents, qui va être de la bonne religion, qui va être de la bonne silhouette, etc. D'ailleurs, il y a énormément de troubles du désir qui se règlent en deux coups de cuillère à peau quand on commence à comprendre que on a été manipulé pour déclencher notre désir devant un corps comme ci ou comme ça, mais qu'en vrai, si on s'écoute en profondeur, notre désir, il se situe complètement ailleurs. Mais oui, il y a du ménage à faire dans le cahier des charges. Mais ayez tous les cahiers des charges que vous voulez, la vie va se charger de vous. La vie va se charger de vous. La vie est géniale pour ça.
Mais pour le coup, ce cahier des charges, on n'en a pas toujours conscience, quoi. On préfère se mentir à soi-même parce que c'est. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas au clair là-dessus, quoi.
Je crois que c'est pas qu'on se ment à soi-même, c'est qu'on ne sait pas encore qui on est vraiment. J'irai pas, tu vois, sur un mensonge actif, mais combien de personnes témoignent et disent, c'était pas du tout mon type. J'aurais jamais pensé
Oui, c'est
que.
vrai ça.
Mais bien sûr,
Ouais.
notre cahier des charges, il est complètement à l'ouest, complètement à l'ouest. Il est drivé par notre éducation, notre milieu et tout ce qu'on a reçu comme message sur qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le couple.
Donc là, on touche du doigt un truc essentiel, j'ai l'impression, c'est que peut-être que pour être bien en couple, il faut accepter de se connaître soi-même et de faire ce travail-là, en tout cas, si on ne se connaît pas soi-même. C'est très difficile en jouant un rôle dans la société ou en étant justement trop préoccupé par son travail ou autre chose pour avoir du temps à se consacrer dans cette quête de soi. Si on balaye ça de notre vie, on est. Alors, je dirais pas que c'est fichu d'avance parce que, comme tu le disais tout à l'heure, l'autre personne peut nous amener à bouger aussi, mais on
C'est
complique les
ça.
choses, quoi.
Mais je veux dire, c'est pas un peu cliché, ça aussi, le côté soyons heureux nous-mêmes afin d'accueillir le bonheur à deux, tu vois?
Alors moi, je dis pas soyons heureux nous-mêmes avant d'accueillir le bonheur à deux, parce que je pense que être aimé restaure l'amour de soi.
D'accord.
Donc, je suis absolument contre ce truc qui dit aime-toi toi-même avant que d'oser être aimé. Je trouve que c'est la double peine, en fait. Ça veut dire, tu as fait un voyage de l'enfance qui t'a rappelé ce sens de toi, ce sens de la beauté de toi. Bah, tu sais quoi? Eh ben, l'amour, c'est pas encore pour toi. Je trouve c'est terrifiant. Je trouve que c'est hyper culpabilisant et ça fait les marronniers, hein. Voilà. Mais en revanche, savoir que si j'ai perdu le sens de l'amour de moi, je vais être un partenaire, ça va avoir un impact sur ma façon d'être partenaire. Parce que je vais me protéger de cette sensation de ne pas être aimé, même quand tu m'aimes. Et donc, oui, on va faire ce travail pour que ce manque d'amour de moi n'impacte pas trop notre relation. Mmh. Mais n'attendez pas de s'aimer soi-même, je ne sais même pas ce que ça veut dire, avant d'oser dire au monde « je suis disponible pour l'amour ».
Ouais, c'est ça, parce que moi, je m'aime bien, hein, tu vois. Puis je suis célibataire et disponible, hein, donc... N'hésitez pas à envoyer vos candidatures.
Mais tu as bien raison, tu as bien raison. Il y a comme ça des poncifs sur le couple et l'amour, moi, qui me rendent dingue. S'aimer soi-même avant d'aimer, c'en est un. L'autre, c'est la routine.
Ouais.
Tout ce qui dit que éviter la routine, que la routine tue le couple, je pense que la routine fonde le couple. Je pense que la routine, c'est nos meilleurs repères. C'est un nid de douceur et de stabilité et de sécurité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas emmener du nouveau. Qu'on n'oppose pas l'ordinaire et l'extraordinaire.
Ouais, je suis super content de t'entendre dire ça, vraiment, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas entendu souvent, voire que je n'avais jamais entendu. Et moi, j'ai toujours aimé la routine avec ma femme dans plein de phases. Pas tout le temps, effectivement, parce que sinon, on se fout en l'air. Mais ça a mis une espèce de pression sur le couple, de dire, enfin, on voit ça dans les films, hein, par exemple, la fille qui rentre du travail et le mec dit, regarde ce que j'ai mis sur la table, oh, 2 billets pour aller à Venise.
Et on part maintenant.
Et on part tout de suite, ou je t'emmène à tel endroit les yeux bandés, et hop, regarde, waouh, et puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va chez ta mère? Non, on fait du deltaplane. Waouh, mais. Et puis toi, à côté avec ta femme, tu fais, bon, mais moi, je sais pas, j'ai téléchargé une série, si tu veux qu'on la regarde ensemble, et tu te sens bête, alors que tu peux avoir envie des deux, tu peux avoir envie de parfois d'excursion, de folie. Mais des fois, c'est tellement bien de se dire bah, aujourd'hui, on regarde notre série comme tous les soirs sous le plaid et on aime bien quoi.
Exactement, exactement. Je veux qu'on réhabilite la routine. La routine, c'est les fondations. Mais en fait, on oppose la routine à l'extraordinaire.
Ouais.
On a besoin des deux. On a juste besoin des deux, mais ne pas dénigrer la routine parce qu'il y a beaucoup de couples qui se regardent et qui se disent bah, on n'est pas un bon couple, en fait, on est plan-plan, c'est fini, c'est foutu. Non, pas du tout. Trésorez, chérissez vos routines.
Il y a aussi quand même beaucoup ton entourage qui te fait croire que ton couple il est horrible.
Ouais, entourage, film, enfin il y a tellement d'influence.
Puis
de
même
partout.
Tes potes qui viennent dîner, qui disent ah bah nous ce week-end on a fait ça, ah bon vous êtes jamais allé. Enfin en fait il y a une espèce de truc alors qu'en réalité peut-être que ce couple-là qui est plus plan-plan est peut-être plus heureux que l'autre et enfin. C'est un peu comme dans la sexualité en fait, on voit pas les gens faire et pourtant on porte toujours un jugement et un avis sur ce que doivent faire les gens, c'est pénible.
Ça me fait penser à un truc et c'est de ça que je voulais te parler, Florentine, et je l'avais oublié, donc merci de me le rappeler. C'est que j'ai connu justement des couples, j'ai l'impression, quand j'étais petit, donc de l'âge de mes parents, qui étaient pas du tout dans la routine, dans le sens où ils étaient très actifs, ils sortaient, ils faisaient ça, ils allaient là, et par contre c'est des couples qui ne faisaient jamais rien à deux à la maison. C'est comme si ils fuyaient cette situation, parce que toute leur vie, ils avaient tellement connu autre chose que inconsciemment ou consciemment, ils avaient peur de se retrouver en tête à tête à la maison.
Bien sûr, mais la suractivité ou la sursociabilité, ça peut être une fuite de l'intimité. Hein. Et je ne parle même pas de la sexualité, parce qu'on peut faire de la sexualité sans être intime, mais l'intimité, c'est être ensemble et sentir toutes les émotions qu'on sent l'un à l'occasion de l'autre. Et oui, les couples qui partent tout le temps en vacances avec des bandes de potes, ou alors dans les maisons familiales où il y a toujours les cousins, les ribambelles, les trucs, qui sont jamais, jamais ensemble, qui ont une vie sociale débordante, etc. Parfois, l'entourage ne comprend pas, tout d'un coup, ils disent on se sépare, alors que ça avait l'air d'être tellement fun, mais c'est parce que le 2 n'était pas en route, était déserté.
Ouais, ils étaient plus en partenaire de soirée ou de sortie que... Qu'un vrai couple.
Oui, parfois c'est une fuite de la relation, effectivement. Hein, tu le disais très bien, d'être tout le temps ailleurs.
Alors, Anso parlait de sexualité, je pense que c'est important aussi qu'on en parle. Juste avant, je voulais savoir comment tu expliques, s'il y a une explication, que parfois des gens restent dans une relation qui, en tout cas, semble toxique. Je pense par exemple à une personne. Qui est en couple avec une femme qui, pour le coup, est très critique, je trouve, envers lui, très souvent un peu comme une maman qui serait une maman très sévère, quoi, qui lui dit mais tu fais jamais ça, mais de toute façon en ça t'es nul, et puis je préférerais que des fois je me dirais que, enfin, je serais plus heureuse sans toi qu'avec toi, ou mais à dire des choses très violentes. Par exemple, c'est un ami qui a des soucis de santé, et dans des énormes crises elle lui a déjà dit je préférerais que tu sois mort. Tu sais quoi, t'aurais dû mourir lors de ton opération. Et lui va me raconter ça comme quelqu'un qui a vécu quelque chose d'un peu traumatisant, mais alors que moi ça me semblerait impossible de supporter le dixième de ça en couple, bah lui, parce qu'il y a d'autres beaux moments à côté, continue avec cette personne. Alors même si c'est un cas très particulier, je pense que ce modèle-là doit exister dans plein de couples, cette espèce d'humiliation qui peut exister, ou cette,
devant les autres,
ou cette violence, et parfois en public. Comment est-ce que on peut expliquer qu'on puisse rester dans un couple comme ça? Pardon, je voulais avaler ma salive.
Il y a deux.
On dirait que je croyais que tu allais te mettre à pleurer.
Alors effectivement, c'est ce que tu décris chez cet ami, c'est extrêmement toxique. Et je ne sais pas, parce que je ne les ai pas vus, mais je ne sais pas si cette femme est une personne toxique ou si c'est juste leur relation qui a pris un tour toxique. Parce qu'on peut être une personne qui n'est pas toxique et émettre des choses très toxiques. Tu vois, il y a une différence entre un tableau psychopathologique, par exemple de pervers narcissique ou de paranoïaque aiguë, etc. Vous et moi, on est tout à fait capables d'émettre des choses toxiques dans la relation. Moi, j'ai pu être très toxique pour Edouard par moment et vice-versa, jusqu'à ce qu'on nettoie l'espace comme ça. Mais ce qui peut expliquer qu'il reste dans cette relation, c'est que soit c'est vraiment une personne toxique et il est sous emprise, parce que l'emprise de la personne toxique, c'est de souffler le chaud et le froid. C'est vraiment je te détruis psychologiquement en te disant des choses, en te faisant croire que t'es pas quelqu'un de bien et en te vidant de ta substance. Et puis, quand je vois qu'on atteint le point de rupture et tu peux vraiment dévitaliser quelqu'un comme ça, hop, je te fais un petit coup de lune de miel. Où tout d'un coup, et la personne, ce qui va déclencher l'emprise, c'est que la personne, au fur et à mesure, elle va se dire, ah, c'est tellement bon, personne ne va jamais m'aimer comme ça, c'est tellement bon que ça doit être moi qui déconne, et tu vois, le cercle vicieux.
Donc on est d'accord qu'on est dans le même schéma que des personnes, et souvent des femmes, maltraitées, même physiquement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui peut expliquer ça aussi, et là il faudrait qu'il fasse le travail à l'intérieur, soit à deux, soit chacun, mais de comprendre comment elle a zéro autre costume de survie, c'est-à-dire mécanisme de défense dans la relation, que agresser quand elle a des émotions compliquées, et que lui, comment est-ce que son enfance a sculpté en lui les possibilités d'être traité comme ça et de ne pas poser ses limites?
Alors, pour le coup, là, je sais que lui, ça peut être transposé une fois de plus sur plein de gens, je sais que lui a vécu ça aussi étant petit. Il a été habitué à ce qu'on lui parle comme ça. Donc, est-ce qu'on va recréer une situation déplaisante?
Quand on a été habitué enfant à une forme de relation, on a interprété ça comme c'est de l'amour.
D'accord.
Tu vois? J'ai grandi dans un foyer où mes parents se hurlaient dessus, j'ai fait des photos avec mon cœur, et je sais, quand on aime, on hurle dessus. Tu vois, il y a tout un tas de représentations à revisiter pour sentir dans la vie quel amoureux je suis, qui je suis, quel amant je suis. C'est pareil pour la sexualité. On est beaucoup à être embringué dans une sexualité qui n'est pas la nôtre, parce que c'est celle qu'on a vue et c'est celle qu'on nous a fait croire qui était la sexualité. Mon deuxième bouquin, c'est vraiment un manifeste pour une sexualité à soi, retoucher le sens de qui je suis quand je suis dans mon corps, comment j'ai envie de donner et recevoir l'amour dans mon corps, comment j'ai envie de vivre l'amour. Et ça me demande de me débarrasser de tout ce que j'ai intégré dans mon voyage de l'enfance.
Bah ouais, c'est une super transition que tu nous fais, merci beaucoup, pour parler justement de sexualité. Je sais pas, toi, Anso, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce
que
tu ressens...
Moi, je suis au top, mec.
Non, mais, sans parler de ça, est-ce que tu ressens ou tu as déjà ressenti une certaine pression ou
Oui. En fait, déjà, moi, sur mes histoires et relations amoureuses, j'ai toujours à peu près le même schéma. J'ai 40 ans, j'ai vécu trois longues histoires qui se sont... toujours terminé par moi et pour beaucoup par lassitude et pas de combat. J'arrivais au bout, j'ai envie de changement. Et en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure avec ce shoot qui se rapproche de la toxicomanie où tu as envie de revivre cet état de désir intense, de toute façon, plus rien ne compte à part l'autre. J'avoue que moi, je dois être un peu toxico là-dessus et en fait, je n'arrive pas à me résoudre à ne plus jamais le revivre. Donc finalement, arrêtez vos candidatures parce que de toute façon, je vais vous quitter. Mais non, moi, ce dont je voulais parler, c'était surtout du désir qui parfois... et du coup, c'est en lien aussi avec la sexualité, mais tu vois, par exemple, pour moi, ça a toujours été un peu une jauge d'histoire d'amour. Dès lors que je ressens un peu moins de désir et que la sexualité est un peu plus flappy, je dirais, un peu plus molle, voire inexistante, ben, je considère que l'histoire d'amour est terminée. Tu comprends ?
Ah, alors, tu sais quoi, je vais te faire une question parallèle, comme ça tu pourras nous faire une grande réponse. Mais au contraire, j'ai l'impression avec ma femme qu'on a des phases où on est très bien, mais par contre, on a moins de désir et moins de sexualité. Et de mon côté, bah du coup, je culpabilise un peu parce que je me dis, oula, on doit pas être normaux ou peut-être finalement on s'aime pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus envie en ce moment ? Voilà, comme ça, tu as ces deux questions en même temps.
Débrouille-toi. Ouais,
non, mais c'est génial que vous souleviez ce thème parce qu'on confond désir et amour. On confond. En fait, il y a plusieurs mythes autour du désir. Il y a le mythe de la nécessité du désir. Ça, c'est un message pour les couples au long cours. C'est tout à fait délicieux de se prévoir des moments pour faire l'amour sans attendre de sentir notre désir pour se diriger vers l'autre. Parce que finalement, entre le fait que moi j'ai envie, que toi tu aies envie en même temps et qu'on ait l'espace-temps pour faire l'amour, on peut attendre bien longtemps, surtout quand on commence à avoir des enfants, etc. Ouais. Donc, si on se base sur le désir pour continuer à faire vivre notre sexualité, à un moment, on est cuit. Parce que finalement, plus on fait l'amour, plus on fait l'amour, moins on fait l'amour, moins on fait l'amour. Hein, ouais. Y a une espèce de reverse system comme ça sur notre hormonologie. Et quand on déserte le terrain, parfois, bah, il faut se remettre en selle pour replonger dans une phase où on refait l'amour. Moi, je suis une grande adepte de prendre des rendez-vous pour faire l'amour. Alors, il y en a plein qui poussent des cris d'orfraie en mode « what ?» mais faudrait aussi prendre des rendez-vous pour ça. Déjà, il faut de l'intelligence amoureuse et aussi, il faudrait… Ben ouais, les gars, parce que en fait, dans une vie, il y a tellement de trucs qu'il vaut mieux se donner rendez-vous pour faire l'amour et il vaut mieux se donner rendez-vous pour faire l'amour quand on est en forme et pas à 23h quand on a toute notre journée dans les pattes. Et au début de la relation, c'est ce qu'on fait, hein, avec plus ou moins d'hypocrisie. Mais quand on se donne rendez-vous pour aller au ciné, au resto ou quoi que ce soit, on sait très bien qu'en vrai, on se donne rendez-vous pour faire l'amour, mais qu'on ne va pas dire « vas-y ».
Oui, bien sûr. Boire un verre, on le connaît, le fameux verre, alors qu'il n'y a pas de
voilà,
dans le frigo.
Exactement. Et donc, moi, les couples long cours, vraiment, je leur recommande d'avoir des rendez-vous dans l'agenda. C'est ce qui marche tellement chez les amants. Hein. Les amants, ils donnent rendez-vous à l'hôtel et ils ont une sexualité vachement nourrissante. Ouais. Mais ils se sont donné rendez-vous pour ça. Ouais. Quand on se donne rendez-vous, ça commence à se préparer.
Comment tu fais quand tu es en couple depuis longtemps avec quelqu'un ou du coup, je sais pas, c'est peut-être le temps qui passe, les désaccords, les problèmes de communication aussi qui font que tu as beau te donner rendez-vous à 17h pour aller faire l'amour, tu es devant la personne et tu lui dis bon, j'ai pas envie quoi.
Est-ce que déjà c'est connecté ? Est-ce que ce que disait Anso tout à l'heure, ça peut être vrai ? C'est-à-dire que ce manque de désir peut annoncer la fin d'un couple ou la fin de quelque chose ?
Je crois que je me suis plantée,
c'est faux. Pas forcément.
En fait, pas du tout, tout forcément. Déjà, il y a beaucoup de couples qui sont des couples magnifiques, qui complexent de ne plus faire l'amour. J'ai envie de leur dire, détendez-vous. Si c'est une souffrance pour l'un ou l'autre ou les deux, venez vous remettre en selle. Mais si c'est OK... soit parce que c'est une phase, soit parce que c'est comme ça, vous ne faites pas des nœuds au cerveau, déjà. Et ensuite, très souvent, quand on se met à plus faire l'amour ou à plus avoir de désir, ce n'est pas forcément qu'on n'a plus de désir pour l'autre ou qu'on n'est pas un bon couple, c'est qu'on n'a plus envie de la façon dont on s'est engagé dans faire l'amour. Et souvent, ça passe par le corps des femmes. Les femmes, elles ont le signal souvent beaucoup plus tôt. Elles ont une baisse de désir et elles se mettent à être un peu rejetantes. Et en fait, le signal à l'intérieur, c'est pas « j'ai plus envie de toi », mais c'est j'ai plus envie de la façon dont on fait l'amour. Parce que les femmes, encore une fois, elles portent cette polarité d'initiatrice et dans leur corps, elles sentent qu'il y a un virage à prendre, qu'on n'a pas la même sexualité au début de la relation, au fur et à mesure des années, et qu'il y a quelque chose à écouter dans ce mouvement pour se rapprocher encore de soi.
Ça me parle beaucoup, beaucoup ce que tu dis, Florentine. Mais du coup, c'est toujours délicat à aborder comme genre de sujet parce que, tu vois, c'est surtout d'une femme qui va en parler à un homme sans vouloir faire de généralité, de cliché encore une fois. Hein. Mais il y a toujours ce côté un peu attention, tu
Mais c'est
touches
ça,
à
Anne-Sophie,
ma respiration.
l'intimité. L'intimité, c'est la possibilité d'aborder des sujets délicats. C'est ça, tu sais, de l'intimité. C'est de dire, c'est de pouvoir ouvrir un espace qui, pour dire, j'ai envie qu'on évolue dans notre façon de faire l'amour. J'ai créé un jeu qui s'appelle l'art de jouir, qui est fait pour que les couples se donnent la notice. Quelque chose que j'ai besoin de te dire, une chose que tu dois savoir à propos de mon corps, une chose que tu dois savoir à propos de mon désir, parce que je sais comme l'intimité, elle est très très compliquée. Et qu'on a besoin quand même de se donner la notice l'un de l'autre pour évoluer ensemble en continuant à être chacun branché à soi. La sexualité, c'est un voyage vers soi avec l'autre. Et on a besoin de se donner le manuel et ce qui nous a plu il y a 10 ans nous plaît plus aujourd'hui,
Oui.
etc., etc. Et donc, c'est ça qui peut couper du désir, alors qu'il y a tant de choses à faire ensemble.
En fait, je remarque effectivement qu'on évolue sur la sexualité, mais il y a un truc que j'ai remarqué sur le tard et je m'en veux un peu. Parce que je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai considéré le manque de désir de mes partenaires comme quelque chose de personnel. C'est-à-dire que je pense pas être le seul homme à faire ça, mais j'ai fait des crises pas possibles à des filles en disant quoi, t'as pas envie de moi, ben, ça veut dire que tu m'aimes plus, qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas, j'ai pas le corps des magazines, c'est ça, machin. Et vraiment, je leur faisais la
Drama
gueule.
queen.
Non, mais je leur faisais la gueule. J'allais dans le salon, je faisais la tête et je boudais, j'étais énervé et je considérais mon énervement comme légitime. À aucun moment je le remettais en question. Une autre fois, sans rentrer dans les détails, et puis si je rentre dans les détails, tant pis, on va dire que un matin, j'avais très envie de faire l'amour et que ça se voyait sur mon corps. Et
Ah bon, mais comment?
je me suis collé à ma partenaire. Et là, tout de suite, elle m'a énervé. Elle a vécu ça comme une agression. Et sur le moment, je ne l'ai pas du tout compris. Je dis, mais quoi? Mais attends, d'où je t'embête? On est ensemble, on est en couple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça va pas. Puis voilà, je me suis encore énervé et je suis parti. Et ça, cette partenaire-là, c'est ma femme actuelle. Et ma femme actuelle, c'est vraiment la femme qui m'a fait le plus évoluer là-dessus et me poser des questions sur mon rapport à la sexualité, à mon corps, et qu'en fait, ce que je ressentais n'était pas toujours la vérité, que ce que j'avais comme image du couple n'était pas forcément ça. Et aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, peut-être que j'ai honte, hein, de dire ça, mais peut-être que j'avais 30 ans, 35 ans, quand j'ai appris à gérer un non, j'ai pas envie, sans que ça me fasse rien du tout, et que je sois capable quand même de faire un câlin à ma femme et lui dire je t'aime et tout va bien. Mais putain, je me dis, pour que j'ai appris ça qu'à 30 ou 35 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. On manque d'éducation sexuelle ou on manque d'explication. Parce que je me dis, enfin, je connais encore des gens de mon âge et même plus vieux qui sont encore à ce stade-là de péter les plombs quand leur partenaire ne veut pas faire l'amour. Et ça en vient des fois à des rapports forcés. Alors, je ne parle pas de violence, mais de femmes qui vont peut-être se dire, allez, je fais l'amour avec lui, comme ça, il ne me fera pas chier.
Bien sûr, bien sûr. J'ai fait un podcast sur le consentement, dans lequel j'explique que le consentement, c'est pas seulement être d'accord, mais c'est en avoir envie. Parce que je vais inviter les femmes à pas faire la planche, parce que c'est dramatique pour tout le monde en fait. Hein. Et dans lequel je dis mettre la pression, c'est pas du consentement. Faire la gueule toute la journée parce que t'as pas voulu, c'est pas du consentement. Et vraiment bravo, merci de ton courage de t'exprimer comme ça en tant qu'homme, parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'hommes. En fait, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Même s'il y en a qui me tirent dessus quand je genre un peu le discours, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus genrer le discours, mais il y a quand même une grande tendance, on va dire, qui est que les femmes ont besoin de se sentir connectées dans le lien pour recevoir les hommes dans leur corps. Donc il y a quelque chose à soigner dans la qualité de la relation et de la connexion pour pouvoir après basculer dans la rencontre sexuelle. Pour les hommes, quand ils ont perdu la connexion, faire l'amour est leur voie royale pour aller rechercher le lien. Parce que c'est vraiment comme tu l'as nommé, hein, moi je me sens aimée quand, tu vois, c'est vraiment mélanger l'amour et le désir et la sexualité. C'est hyper violent pour une femme quand elle ne se sent pas en connexion, qu'on l'entreprenne sexuellement, parce qu'à l'intérieur, ça fait comme, what, on n'est pas connecté, tu voudrais du sexe, mais t'es un malade ou quoi? Et pour un homme, être rejeté dans une tentative de connexion sexuelle, c'est hyper violent parce que ça fait, what, je ne me sens pas connectée et tu veux pas qu'on se reconnecte, au secours, je ne suis pas aimée. Et c'est une douleur hyper profonde. C'est pour ça que depuis que le monde est monde, on pense que les femmes ne sont pas très intéressées par le sexe et on pense que les hommes sont des obsédés sexuels. Ce qui est complètement faux. Les femmes sont des déesses sexuelles et les hommes ont une sexualité magnifique aussi.
C'est super que tu dises ça, tu te rends pas compte, enfin peut-être que tu te rends compte, mais à quel point c'est important ce que tu es en train de dire, parce que déjà moi, ça me déculpabilise quelque part, dans le sens où je me sens moins anormal, et que quand j'allais chercher ma femme pour faire l'amour, c'était pas un désir de sexe, enfin je veux dire, on est des êtres capables de faire du sexe en solitaire, quand on a vraiment vraiment besoin de sexe, on peut
Exactement,
se faire des
bien sûr.
plaisirs solitaires, il n'y a pas de problème. Mais là, effectivement, c'était pas juste le désir de faire l'acte, mais effectivement, pour moi, quand on fait l'amour, on se reconnecte. Et on en a déjà parlé 1000 fois avec ma femme. Elle a exactement les mêmes mots que toi. Elle a besoin d'une harmonie. Elle a besoin de sentir qu'on est bien tous les deux
Oui.
pour
Et donc, c'est un manifeste pour l'intelligence amoureuse, c'est-à-dire c'est un manifeste pour entretenir la connexion et avoir des outils pour vite revenir dans la connexion quand elle s'est rompue. Parce que, en fait, on est des êtres blessés. On a été blessés dans le lien par nos expériences de l'enfance, par toutes nos expériences. Et donc, l'un à l'occasion de l'autre, très souvent, on va débrancher la prise parce qu'on va faire, on va dire un truc qui déconnecte. Et donc, devenons compétents à ressauter vite dans la connexion. Ayons des outils pour entretenir cette connexion, voire pour la créer, la recréer. Et ça a un impact après sur la qualité de la sexualité.
Donc on peut se dire, si on a des mésententes, on va dire, en tout cas une difficulté à nous reconnecter sexuellement et qu'on en a l'envie, on peut se dire que c'est OK d'aller voir un spécialiste, parce que ça aussi, j'ai l'impression qu'on est dans une société déjà qui a honte d'aller voir un psy. Il faut pas dire parce qu'on est faible, mais alors aller voir un sexologue ou un thérapeute de couple, c'est comme crier au monde, on est moins fort que les autres, on n'y arrive pas, on est nul, donc des fois
Exactement.
on n'ose pas.
Exactement. Moi, je travaille et vous allez m'aider en com hein, à dire que c'est plutôt la classe de travailler sur la relation, que c'est plutôt signe d'une mentalité évoluée, consciente, intentionnelle, que c'est grand, en fait, de mettre la relation au travail. Mais ça, c'est vraiment cette culture française où c'est un échec, hein, où on revient de loin, hein.
Oui, mais c'est
On
fou.
revient
C'est
de
comme
loin.
si on avait honte de faire des études pour pouvoir avoir des connaissances. C'est comme si on avait honte de faire du sport pour entretenir son corps.
C'est exactement ça. Les couples, quand ça commence à pas aller, attendent en moyenne 6 ou 7 ans avant de faire un pas, de demander de l'aide. 6 ou 7 ans. Imaginez comme on a le temps d'aller dans le mur. Imaginez comme on a le temps d'arriver à de l'irréparable ou à. Moi, je vois souvent les couples arrivent un peu tard. Un peu tard. Et ça fait tellement de douleur. Et les enfants sont là au premier poste et ils regardent tout ça et ils se disent, ah, c'est ça l'amour. Moi, je veux changer le monde avec l'intelligence amoureuse. C'est vraiment ça, hein. Je pense que la cellule couple, c'est notre premier laboratoire pour redevenir humain. Sur Terre.
Et est-ce que tu penses, Florentine, qu'il y a par exemple des choses qui sont absolument rédhibitoires pour vivre un couple épanoui et réussi? Est-ce que tu penses que, enfin, je sais pas, il y a, j'en sais rien, ça peut être peut-être la jalousie, ça peut être, tu vois, est-ce que tu as déjà vu des couples où tu t'es dit, ah merde, ça peut vraiment pas marcher et pour quelle raison?
Pour moi, il y a deux grandes formes d'incompatibilité, allez, trois. Un tableau psychopathologique dangereux. La jalousie peut en faire partie ou pas. selon le degré. Mais il y a vraiment des gens qui sont tellement abîmés que ça va être très compliqué, très très compliqué. Ils sont pas tant que ça.
Ouais.
Et sinon, on est tous normalement cognés. Et c'est parfait parce qu'on va amener dans le lien exactement ce qu'il y a besoin pour que ça bouge. En fait, il faut faire confiance au processus. Il y a vraiment une mission dans la relation qui est magnifique.
Moi, ça me fait un peu mal d'entendre ça parce que, une fois de plus, je me confie à fond parce qu'en vrai, c'est aussi ça le but de ce podcast, c'est que
on savoir une thérapie gratos.
Non, mais c'est aussi savoir dire les choses. Et moi, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, mais en tout cas, un des trucs que je me garde en objectif, c'est essayer d'être le plus transparent possible, même quand c'est pas beau, même quand normalement on le montre pas, parce que je trouve que c'est justement jouer des rôles et l'absurde. De perfection qui fait qu'on se tue et qu'on impose aux autres peut-être des enfin qu'on leur fait avoir des objectifs trop hauts. Enfin, on montre une version de nous-mêmes qui n'est pas réelle. Et en gros, la jalousie, je dis ça parce que ça m'y a fait penser. J'ai été quelqu'un de très très jaloux, mais je pense à un point justement trop haut. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, par exemple, ma première petite copine, ne serait-ce que si elle parlait avec un garçon ou qu'elle riait avec lui, ça me mettait dans une colère incroyable de savoir qu'elle pouvait éprouver des sentiments quels qu'ils soient pour un garçon. Et du coup, je crois que j'ai, enfin c'est même certain que j'ai été quelqu'un de très toxique sans m'en rendre compte à l'époque, puisque cette personne, pour me faire plaisir, a arrêté de parler avec des garçons et sans que j'aie à lui demander en fait. Mmh. Et tout ça pour dire que la jalousie, comment est-ce que j'ai travaillé dessus, même si aujourd'hui je suis encore un peu jaloux, mais de manière beaucoup plus classique, on va dire. Ça a été quand j'ai commencé à travailler sur moi-même en fait et que j'ai commencé à aller voir un psy. Et que j'ai compris que j'avais plein de traumatismes que je n'avais pas soupçonnés, et notamment un immense problème de confiance en moi, et une très très basse estime de moi-même. Et en fait, quand on commence à travailler sur soi, forcément, c'est beaucoup plus bénéfique pour tous les gens qui nous entourent, parce qu'on ne va pas leur faire porter le chapeau pour tous les sentiments qu'on ressent, qui sont des fois d'une violence extrême. Moi, quand je voyais ma copine parler avec un homme, mais c'était le feu dans tout mon corps, quoi. Sauf que à l'époque, je ne pouvais pas conscientiser que le problème n'était pas la situation de ma copine avec cet homme, mais que ça venait de moi et de la façon dont j'avais grandi et de mes traumas, quoi.
Mais tu vois, il va y avoir différents niveaux de toxicité avec la jalousie. Il va y avoir ce que tu décris de cette douleur, de ce feu, et que du coup, cette femme qui est avec toi, elle rétrécit ses possibilités de vie pour pas te mettre dans cet état-là. Mais là où ça devient psychopathologique, c'est si tu t'autorises à la taper ou à la tuer parce qu'elle te met dans cet état-là.
Mmh.
Tu vois, il y a quand même un ranking. Et donc, pour répondre à la question quelle est la grande incompatibilité, quand je parle de psychopathologie, on est vraiment dans la psychopatho. Et la jalousie, en fait, là où c'est incompatible, c'est si la personne n'est pas décidée à bouger par rapport à ça. Si c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Il vaut mieux laisser, hein. Et la jalousie, pour te donner des indices, Greg, dans mon regard, c'est que quand on est tout bébé, entre 18 mois et 2 ans, 2 ans et demi, il y a parfois, enfin bon, c'est labile un peu, mais on se rend compte qu'on n'est pas maman. Pendant longtemps, le petit, il est vraiment, il fait encore un, il sait pas différencier. Et le moment où je m'aperçois qu'on est différent, si maman là est pas disponible psychiquement, soit parce qu'elle est en dépression, soit parce qu'il y a un autre bébé qui arrive, soit parce qu'il y a des problèmes dans le couple, soit parce qu'elle est harcelée au boulot, soit parce que sa mère est en train de mourir, etc. Tu vois, alors le petit se dit. Si je ne suis pas l'unique objet d'amour, c'est mort. Parce que quand on est petit et qu'on perd ce lien d'amour comme ça, notre sensation physique, c'est « je vais crever ». Parce qu'on est pieds et poings liés quand on est tout petit, tout petit, petit, petit. Et donc, cette petite poupée russe de nous à l'intérieur, on va se mettre en amour avec quelqu'un. Et si à l'occasion de cette personne, on revit « oh là là, tu t'intéresses à quelqu'un d'autre qu'à moi ?» Au secours. Tu vois, c'est une piqûre de rappel d'une petite poupée russe qui a besoin que tu ailles t'occuper d'elle. On pense que la solution, ça va être de dire non, non, tu restes avec moi, mais non, le monde en nous, il n'évolue pas.
Oui, en fait, si j'étais, j'ai envie de dire, un de tes patients potentiels et que je voyais une vidéo, toi, que j'écoutais ce podcast, je serais vraiment surmotivé pour prendre rendez-vous avec toi parce que je trouve que tu tapes tellement dans le juste et avoir des gens qui disent des choses qui résonnent avec nous, on peut en trouver facilement. Mais là, je trouve que tu es quand même dans l'extrême justesse à chaque fois Et là, par exemple, ce que tu dis sur... parce que c'est important d'avoir des explications sur la petite enfance. Moi, je sais que quand j'étais tout bébé, ma mère, ça a été très compliqué pour elle. Et assez rapidement, il y a un fossé qui s'est creusé entre elle et moi pendant un certain temps. Et donc, ce dont tu parles à cette période de vie, c'est sûr que ce fossé existait et que j'ai manqué d'amour et de lien avec elle.
La jalousie, c'est une protestation contre la peur de ne pas être l'unique objet d'amour. Parce qu'on a eu une expérience cuisante dans nos premières années et que donc, tu sais, notre partenaire, en fait, à l'occasion de lui, on va juste se remettre dans nos poupées russes. Il faut repérer lesquelles. Parce qu'elles vont toutes, s'inviter au fur et à mesure. C'est ça hein, qui met de la friture sur la ligne entre deux. Et pour revenir à ta question, Anne-Sophie, sur l'incompatibilité, pour moi, les grandes incompatibilités, c'est, tu vois, des trop grands compromis à faire pour sa vie au nom d'être avec l'autre, qui sont un veut une sexualité ouverte et un couple poli, amoureux, alors que toi, dans tes valeurs et dans ta construction, c'est important d'être monogame, c'est comme ça que tu as de la sécurité, c'est comme ça que tu envisages ta vie. Là, moi, j'invite pas le polyamoureux à se mettre en monogamie. J'invite pas le monogame à se mettre en poly, parce que ça fait renoncer à des parties de soi qui sont dans l'ADN, qui sont trop douloureuses à compromettre, dans un sens comme dans l'autre. Idem pour le désir d'enfant. Quelqu'un qui veut faire des enfants, quelqu'un qui sait qu'il ne mettra pas d'enfant au monde, qui n'en a pas l'envie, le désir. Ne relationnez pas ensemble au long cours, ça va faire trop mal. C'est pas possible. On peut pas renoncer à des parties de soi aussi importantes. Après, toutes les autres incompatibilités, t'es bordélique, moi je suis hyper structurée, t'aimes la mer, j'aime la montagne, tu ceci, moi cela, etc. C'est des défis de croissance, c'est plutôt des invitations à être plus vivant. Ça se surmonte, ça se vit bien. Mais il y a quand même, tu vois, à la base, 3-4 grands terrains sur lesquels il vaut mieux renoncer à un amour naissant qu'à aller tisser des années de douleur.
Et c'est OK de travailler sur son couple au début ?
Bien sûr. Oh, mais comme je l'ai béni, ceux qui arrivent là dans l'expérience à nos amours, en début de parcours, mais ils s'économisent des points de vie, ils s'économisent des points de joie, c'est incroyable.
Et qu'est-ce qu'on appelle un début d'ailleurs ?
Ben, le début, c'est quand on s'est rencontrés et qu'on choisit de se mettre à être... Quand on dit on est en couple, en fait, ça veut dire je teste cet engagement au long cours avec toi.
Et aujourd'hui, Florentine, est-ce que tu reçois encore des nouveaux patients ? Est-ce qu'on peut te consulter à distance ? Comment ça se passe ?
Mes façons d'accompagner aujourd'hui, elles sont assez différentes de ce qu'on appelle la thérapie classique. Moi, je reçois les couples en journée.
D'accord.
C'est-à-dire que des couples viennent me voir ici une journée entière parce que je déteste les petits rendez-vous d'une heure et demie où on est sauvé par le gong. En fait, on a... Il faut le temps d'aller au cœur du réacteur. Donc, on se bloque une journée entière. Et le gros avantage, c'est que ça filtre les surmotivés. Je n'ai pas les touristes qui m'amènent leur partenaire comme un petit paquet de linge sale en disant « il faut me le laver et me le rendre bien blanc » parce que ça ne va pas du tout. J'ai des couples extraordinaires qui ont compris l'engagement. Et moi, c'est mon. Enfin, je travaille dans le temps long, en fait.
Et tu proposes des stages en plus à côté de ça.
Propose des stages l'été. Je propose un stage intelligence amoureuse, un stage intelligence érotique, en fait, un stage couple en général et puis un stage sexo. Et puis j'ai un accompagnement qui s'appelle À nos amours, dans lequel j'accueille les couples ou les femmes ou les hommes pour leur couple ou les célibataires. En fait, j'ai trois populations dans cette aventure-là. Et là, c'est un accompagnement en ligne avec des rencontres Zoom comme ça, avec en distanciel.
Et puis, suivez Florentine. Enfin, elle propose même une sorte de petit calendrier de l'Avent pour le mois de décembre.
Oui.
Qui est super mignon. C'est le calendrier amoureux, c'est ça ?
Le calendrier de l'Avent des amoureux, exactement. Ouais. Chaque jour de l'Avent, on va envoyer un rituel. On veut que les gens arrivent à Noël bien connectés, bien...
Et c'est gratuit en plus.
C'est gratuit.
En tout cas, je te remercie du fond du cœur. On te remercie, Florentine, parce que c'est, même si là, on survole des thèmes et qu'on ne peut pas parler, évidemment, en une heure de podcast de tous les sujets dont on voudrait parler, c'est super important, des moments comme ça. Le travail que tu fournis et le discours que tu nous offres aujourd'hui, il permet de se déculpabiliser, il permet de remettre les choses un peu à leur place et il rappelle vraiment des choses essentielles. Parce que malgré nous, on avance avec des petites pressions à droite à gauche et puis des concepts dans notre tête. On passe notre temps à se changer de route, à se tromper de route et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Là, ça rappelle vraiment des choses essentielles qui vont faire, je suis sûr, beaucoup de bien à plein de gens qui peut-être galèrent dans leur couple ou en amour.
Et puis moi, je vais te dire, j'ai plein de copines qui te connaissaient, étaient un peu leur Katy Perry à elles. Et elles m'ont dit, quoi ? Mais tu reçois Florentine Donoa-Wang, mais la chance ! Donc, je vais faire ma crâneuse. Pendant quelques mois, et pour ça, je te remercie, Florentine. Ouais,
merci beaucoup. Et on invite évidemment tout le monde à te
suivre. La meilleure du jour.
Et à taper Florentine Donoa Wang sur Google pour te lire.
Ouais, l'espace du couple. En fait, mon Insta, c'est l'espace du couple. Et c'est là que vous trouvez les livres, les jeux, tout. Le podcast s'appelle l'espace du couple.
Super, oui, parce qu'il y a un podcast aussi. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, Anne-Sophie.
Effectivement, je vais te dire, Florentine, elle bosse. Hein.
Oui. Bah, nous aussi, on fait quand même un podcast par semaine. Hein, c'est fatigant. Mais merci en tout cas pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui, c'était super.
Ben, merci pour vos questions et pour le dévoilement en fait, c'est rare de ne pas être dans un discours d'expert et c'est super appréciable.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
À bientôt Florentine,
merci. Bonne journée.
Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains.
Merci par avance.
Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci.
Et bien à vous.
À vous également.
Au revoir.
Cordialement.
Ah oui, j'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.